pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Boulevard, le pit stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le pit stop avec Gravel et Marceau.
Fier de la victoire des Bruins de Boston. On a, on a un conquérant en studio. Denis Gravel qui dit « Boston, c'est mon club. Vous êtes fait ramasser hier, les Canadiens. »
Ouais, mais je te dirais que les Bruins ont beaucoup de gros problèmes à régler, eux autres aussi. Pas un grand match entre deux grandes équipes hier. On va se dire ça comme ça.
Donc, c'est pas grave. Les Bruins qui ont gagné, on va se dire à la prochaine fois.
Exact.
En espérant que ce soit Montembeau qui soit derrière le filet, là. Parce que c'est la raison pour laquelle vous avez gagné.
Ah oui, c'est aussi simple que ça.
C'est ça, j'avais décidé ça.
Swayman va avoir besoin d'une coupe de game pour retrouver ses repères aussi, si tu veux absolument parler de gardien de but. Ouais. Là, mais écoute, on a deux équipes qui vont se battre pour une place dans les séries, probablement. Là, c'est mon feeling. En tout cas, à date, pour les 15 derniers matchs entre le Canadien et les Bruins, juste spécifier qu'on est rendu à 14 victoires pour les Bruins et une défaite en prolongation. Donc voilà.
Pascal?
Salut, tête d'œuf.
Ouais, ben oui, c'est moi ça.
On a des têtes de bite puis des têtes d'œuf à la station. C'est
vous êtes extraordinaire, vraiment, vous. Là.
On fait des beaux slogans.
On sait parler aux femmes.
Ah oui, c'est...
On sait aussi comment s'insulter avec les autres, nous insultes.
On insulte ceux qu'on aime, au fond. C'est ça, c'est ça.
On va-tu être bien la semaine prochaine?
Ouais, il va manquer du monde, hein?
On va se faire un party de saucisses à tous les midis. Ouais.
Moi, j'ai dit que ça, c'était pas super comme
branding. Il n'y aura pas de 50 nuances de gris là, au travers de tout ce qu'on dit.
Ah non. Full pirate, full alpha. Là. Ça va être un gros deux semaines.
C'est le fun, parce que quand je vais revenir, vous n'aurez plus votre job.
Exact. Nous autres, on est bien heureux, les propriétaires un peu moins.
Ils sont nerveux, bien nerveux.
Hey, j'ai surpris une discussion hier, j'étais en train de manger dans mon stationnement juste à côté. J'allais faire un tour au IGA, puis j'ai pris un petit repas avant d'aller au Collège Radio-Télévision de Québec hier, qui fêtait ses 35 ans d'histoire.
Wow!
Plein de monde de la radio, plein de monde qui sont maintenant en politique, qui étaient présents. Ça a été le fun de voir leur visage. Mais cela dit, j'ai surpris une discussion entre toi puis Audrey et Véro concernant ce que Québec s'apprête à faire pour ce qui est des médecins de famille qui étaient attitrés ou qui seraient attitrés à des gens qui sont en mauvaise santé physique. Donc, ceux en bonne santé perdraient leur médecin de famille, ce qui est totalement débile. Denis, j'étais dans ma voiture, puis moi, je me suis senti un peu plus de ton côté là-dedans. J'en reviens pas. Tu te dis, on est supposé être dirigé par des gens qui sont relativement intelligents.
Mm-hmm.
Que cette décision-là soit prise, puis peut-être annoncé prochainement, je trouve ça hallucinant.
J'imagine que c'est une proposition qui a été mise sur la table, puis que rapidement, ils vont voir, un, ça ne s'applique pas, deux, ça manque complètement de logique et de conséquences pour un paquet de raisons. Puis hier, pour vrai, j'étais fâché.
Denis, on gagnera jamais, toi et moi, des prix Nobel.
Non, okay? non, définitivement pas.
On est dans la salle de conférence, toute la gang, puis on arrive avec diverses idées pour trouver des médecins de famille.
Ouais.
Ce genre de proposition-là meurt dans l'œuf à partir du moment où quelqu'un lève la main pour en parler.
Tu sais, je veux pas nommer personne.
Qui nous dirige?
Je comprends pas. On est-tu si près du gouffre que ça si on est rendu à penser à des scénarios comme ça qui feraient en sorte que le Québec, premièrement, pourrait plus jamais aspirer à devenir un pays, deuxièmement, qui ferait baisser notre statut en frais d'endroit ou la qualité de vie, parce que là, il n'y a plus rien qui marche. Là. À partir du moment où tu as juste des médecins de famille pour les gens qui ont un cancer diagnostiqué puis les gens qui ont des maladies chroniques connues, ça veut dire qu'on est dans le trouble et pas rien qu'un peu. Ça veut dire qu'on a fait perdurer le mirage beaucoup trop longtemps. On a continué de dépenser comme si tout était beau puis que tout allait bien. Et on va se retrouver avec des scénarios catastrophes comme ceux-là où tu vas prendre des médecins de famille que des gens ont attendu 7 ans, 8 ans à attendre. Tu vas les enlever. Et ces gens-là, ben quand ils vont avoir un cancer qui tranquillement va s'étendre dans le corps, ben quand on va le trouver, il va être trop tard qu'ils n'ont pas de médecin de famille et qu'ils ne sont pas capables d'avoir d'examen une fois de temps en temps. On en connaît du monde dans l'environnement de Leclerc Communication qui sont en forme, qui prennent soin d'eux autres puis qui ont pris le cancer à temps. Dans un scénario comme celui-là, on change la donne en tabarnouche.
Ben oui.
Là.
C'est eux qui font des... en fait, tes prescriptions de prise de sang. Si on revient à Richard Martineau que tu vas voir en entrevue cet après-midi,
oui.
C'est parce qu'il y a eu un bilan sanguin qui a été prescrit par quelqu'un qui est allé le faire puis a été capable de voir. Puis ça, ça va te prendre, oui, un 15 à 30 minutes avec un médecin de famille dans un local pour te faire aller à tes prises de sang. Ça se peut, ça aussi. Quand tu n'as pas nécessairement de symptômes, mais crime que... T'as une rencontre annuelle ou une rencontre aux 3 ans, puis au moins, ben, il dit, ben, c'est tout quoi, on va faire un petit check-up de ta santé. C'est tout ça qui amène aussi à ne pas avoir de débordement en santé, puis ça coûte extrêmement cher par la suite, ça coûte plus cher aussi.
On nous dit à nous autres de se faire tester, on nous dit à nous autres de se faire vérifier, on nous dit à nous autres d'être prévoyants, puis on bâtirait le système pour aller complètement à l'envers. Je veux pas enlever un médecin à quelqu'un qui en a besoin. C'est juste que ça va à contresens de toute la prévention qu'on essaye de faire pour pogner les maladies à temps.
L'égalité des chances.
Ben oui.
L'égalité des chances aussi. Puis tu sais, moi, là, que vous ayez des problèmes de santé, tout ça, je vous juge pas, puis j'ai de l'empathie à votre égard, mais moi, j'ai jamais fumé. Okay? Fait que je me retrouverai jamais pour un problème d'emphysème chez le médecin. Mais quelqu'un qui a pas fait attention à sa santé, qui fume un paquet par jour depuis qu'il a 12, 13, 14 ans, il y en a de moins en moins, mais il en reste encore des gens qui fument, puis qui se ramassent avec des problèmes de poumon, un cancer du poumon. J'ai plein d'empathie pour vous, je le répète. Vous allez avoir le droit d'avoir un médecin de famille, alors que moi... qui se tient
qui
en
fait
forme,
attention à sa santé.
Qui fume pas. Moi, ça se peut que je développe un cancer de la prostate, mais qu'il soit découvert trop tard parce que j'ai pas de médecin de famille.
Il y a rien qui marche là-dedans. Puis la réflexion, il y a plein d'auditeurs qui l'ont eu hier de dire, ben là, c'est les gens qui font pas attention à leur santé qui vont être avantagés dans un système comme celui-là. Puis là, ben, t'ouvres une autre porte, là. T'sais, mettons que le gouvernement décide d'aller là puis qu'à un moment donné, il aborde l'éléphant dans la salle de bain puis qu'ils se disent « OK, là, les gens qui font pas attention à leur santé, eux autres non plus, ils n'auront pas de médecin de famille. OK, c'est quoi quelqu'un qui fait pas attention à sa santé? C'est combien d'hamburgers par semaine que ça prend pour considérer que tu fais pas attention à ta santé? C'est combien de clopes par jour pour déterminer que toi, tu fais partie des gens qui négligent leur santé et qui n'auront pas les privilèges des autres? » On veut-tu vraiment aller là? Et est-ce qu'on est rendu là à ce point-là? C'est tellement inquiétant qu'on discute de scénarios catastrophes comme ceux-là.
Ça va loin, puis dans ta réflexion, puis en même temps, c'est intéressant d'y réfléchir. Le inquiétant, moi, ce que je trouve triste, c'est que c'est les citoyens qui payent pour une mauvaise administration dans le ministère de la Santé. Puis ça devrait pas être le moment où on est rendu, là, la constatation qu'on a. Puis... c'est parce qu'on a pris de drôles de décisions, on s'est assis sur une façon de faire depuis des années que ça fonctionnait comme ça, qu'on est rendu au pied du mur, puis on n'a pas travaillé en amont. Puis ça, on dirait que dans la tête de bien du monde, là, individuellement, que ce soit aux politiques, aux professionnels, au privé ou peu importe, il y a un genre de « on a toujours fait les choses comme ça, puis ça a sensiblement fonctionné, fait qu'on va continuer comme ça, puis à un moment donné, quand le mur arrive fort, qu'est-ce qu'on fait comme solution? Puis on n'est plus capable d'en avoir. Fait qu'on prend des décisions comme ben, les gens qui vont avoir des médecins de famille, ça va être ceux qui en auront besoin dans l'immédiat, soit ceux déjà malades.
Moi, c'est l'égalité des chances pour tout le monde. On paye toutes des taxes et impôts. 50 % des impôts qu'on envoie au Québec s'en va directement en santé. Puis là, les gens qui essaient de conserver une bonne santé, eux, vont se faire dire par leurs médecins de famille qui ont depuis des années, qui vont voir à chaque année pour des bilans, ils vont se faire dire « Hey, je suis désolé, je peux pas te prendre, t'es en santé. » Ça a comme pas de bon sens, Denis. Puis de l'autre côté, parce qu'il y a plusieurs angles là, t'sais, à prendre cette histoire-là, cette idée-là qui a été lancée. Puis je me dis, t'sais, dans une famille consanguine, on n'arriverait jamais avec ce genre d'idée folle-là. Tu te dis, mais qui nous dirige? Je veux dire, t'y regardes, là, il n'y en a pas un qui est top shape. Là.
Premièrement, puis deuxièmement, si on est rendu à regarder des scénarios comme ceux-là, j'imagine que nos élus, présentement, s'en vont pas à Dubaï par quinzaine loader des cartes de crédit sur « Ah oui, ils font, c'est vrai, ils font. Incroyable, mais vrai. » Tu sais, on change rien, Pascal, c'est ça que tu disais, on change rien de ce qu'on fait, on continue de dépenser. Imaginez-vous que dans vos finances personnelles, vous êtes de même. La réalité va vous rattraper un moment donné, elle va vous pogner par le collet, puis ça va faire mal.
Puis là, ça va être de plus manger, ça va être de vendre son char, ça va être des genres de solutions drastiques comme on voit en ce moment. Je trouve ça triste. Puis les médecins de famille, ils existent. Là, okay? Fait que là, on parle de tout ce qui est autour d'eux, puis on parle de comment on va faire en sorte que l'administration va changer. Mais est-ce qu'ils ont été consultés aussi? Parce que j'ai bien... En tout cas, je pense qu'ils seraient capables de dire « Hey, savez-vous quoi? Si on commence à faire ça, là, regardez ce qui va arriver dans le système de santé. On va, comme on disait au début de la conversation, perdre beaucoup de diagnostics précoces.
Exact.
On va perdre beaucoup de gens qui venaient comme ça parce que c'est la procédure, puis qui sont malades. On va perdre beaucoup d'argent au final quand on va faire le compte-rendu parce que ça va nous avoir coûté extrêmement cher, soigner, rendu à des stades finaux.
Puis il y a un auditeur ce matin qui m'a écrit, puis je pense que c'est un auditeur de Boulevard, puisqu'il me disait qu'il avait entendu la conversation sur Boulevard. Moi, j'en avais pas parlé hier, vous en avez parlé dans le retour. Il dit « Yann, c'est déjà commencé ça depuis des années et des années. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire? » Ben dis-moi, j'ai des gens autour de moi, puis je sais pas vous autres si c'est votre cas, puis je fais un appel aux gens qui nous écoutent présentement, qui sont en mesure de nous texter, 418-971-1021. Mais c'est des gens qui sont en forme, qui se font appeler par la on n'a plus le droit de les appeler secrétaires, on les appelle comment maintenant? L'adjointe administrative du médecin pour dire « Hey, ça fait 3 ans que vous n'êtes pas venu nous voir. Faudrait peut-être venir nous voir parce que sinon, vous allez perdre votre médecin de famille. On va vous enlever de la liste. » Ça a l'air que c'est commencé depuis des années et des années, ça. Je veux dire,
puis ça sert à quoi?
C'est un non-sens.
Tu sais, si la personne croit qu'elle n'a pas besoin d'y aller, là, elle va y aller pour rien, pour conserver sa place. Dans ma tête, c'est juste de faire « Hey, salut, avez-vous encore besoin d'un... » Oui, parfait,
mais
excellent.
Tout fonctionne de même. Les budgets du gouvernement fonctionnent comme ça. Quand il te reste du budget dans ton ministère puis qu'il reste 2 semaines, t'achètes des ordi neufs à tout le monde pour être sûr d'avoir le même budget l'année prochaine. Tout notre système fonctionne.
Fait que là, tu veux pas perdre ton médecin de famille. L'adjointe administrative t'appelle pour dire « Là, si vous venez pas nous voir, on va vous enlever de la liste. » Fait que tu y vas année après année, même si t'as rien, juste pour pas perdre ton médecin de famille alors que tu prends la place de quelqu'un qui était malade.
Mais en même temps, c'est correct. Au niveau citoyen, il est pas là, l'erreur n'est pas là. Moi, j'irais. J'irais, même si j'avais pas besoin, juste pour conserver ma place.
Fais ton check.
Je m'excuse.
Mais c'est un non-sens.
Mais je me sentirais pas une mauvaise citoyenne. Le problème est la mauvaise administration là-dedans. C'est qu'on est obligé en tant que citoyen, si on veut conserver notre place, de le faire. Puis là, d'embouteiller justement
Sylvain
les plages horaires.
Sylvain dit, est-ce que nos élus vont perdre leur médecin de famille? Ça, c'est une autre affaire qui est pas souvent assez dit. Là. La plupart de vos politiciens vont en clinique privée.
Ben oui.
Ben là, moi, était mon prochain point. Mais en plus, on diabolise tout ce qui est médecine privée en ce moment.
Puis toute cette gang-là, ils vont. Là.
Puis pas juste ça. Ils nous amènent à y aller. Mm-hmm. Combien d'argent j'ai dépensé en médecine privée, moi, dans, mettons, 6 dernières années?
Quand on a besoin de quelque chose qui presse, on n'a plus le choix, c'est temps.
Je l'ai fait pour proche aussi, là, parce que pour moi, c'était essentiel que ça se fasse vite.
Puis ça, c'est l'autre affaire. Les médecins de famille que tu veux enlever au monde, tu vas-tu les enlever aux parents qui ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants? Il me semble que ça devient un public qui est prioritaire, à qui tu peux pas arracher un médecin de famille. Moi, j'ai 2 jeunes garçons. À un moment donné, on a une médecin de famille qui est en arrêt de travail, puis finalement, elle décide de ne pas revenir. On a reçu une lettre par la poste de la clinique pour nous dire « Hey, by the way, votre médecin de famille là, est en arrêt de travail, elle ne reviendra plus jamais. Fait qu'il vous reste 3 semaines pour profiter de la clinique, puis après ça, vous retournez dans file d'attente. » C'est ordinaire en tabarnouche de recevoir une lettre de même. Puis
quand
j'en
reste 3 semaines pour en profiter.
Oui, c'est ça. Puis quand j'en avais parlé en ondes, il y a plein de gens qui nous avaient raconté des histoires similaires avec des médecins qui partent à la retraite, puis la clinique les écrit pour dire, ben too bad, les autres médecins sont débordés, vous retournez faire la file. C'est un système qui est déjà complètement sclérosé et inefficace.
Le terme médecin de famille, tu sais, auparavant, on l'utilisait parce qu'il y avait aussi une fonction dans cette médecine familiale-là qui était de suivre des familles selon les antécédents médicaux de celles-ci. Fait que quand tu étais attitré à un médecin de famille, ben la famille suivait, tu avais des enfants. Et ça faisait en sorte qu'on était capable de faire du dépistage préventif et en amont selon plein de statistiques médicales qui sont, je m'excuse, mais d'experts, en fait. Parce que, mettons, un cancer colorectal, tu en as eu de tes deux bords. Ben, à un moment donné, ton médecin va regarder et va dire, hey, t'es rendu à l'âge où... Sais-tu quoi, on va faire un petit dépistage? Parce que... Puis il y a plein de gens qui ont évité des cancers agressifs de cette manière-là. Là.
La colonoscopie?
Ben non, là, t'as basé sa colonoscopie, mais je parle parce qu'ils ont regardé les antécédents, parce que le médecin de famille le faisait, ça aussi, il avait le temps de...
Mon chum producteur, il vient d'en avoir une colonoscopie, j'ai demandé s'il avait gardé les images vidéo, il m'a dit non.
Non, c'est pas tant le fun, je te dirais.
Non? OK. Hey, les textos rentrent. Moi, ma médecin de famille me demande de venir aux 2 ans, même si j'en ai pas de besoin, même si je suis en santé, elle me donne ma prescription de prise de sang pour chaque année. Ça devrait être comme ça partout. Yann qui dit...
Mais hey, c'est une femme ou un homme, ça?
C'est probablement une femme, la façon dont elle écrit.
Ben, la femme aussi, c'est parce que des fois, le médecin de famille est gynécologue.
Oui.
Puis ça, ben on n'a comme pas le choix là, d'y aller de façon régulière, une fois par année.
Embarquez ça dans les sabots.
Eh, Seigneur, approchez-vous, là, restez calme, restez relax.
Yann qui dit, je vous écoute parler, c'est exactement comme ça que j'ai perdu mon médecin de famille il y a à peu près 10 ans.
Non.
Il n'y allait pas. 10 ans. Ils l'ont juste flushé.
C'est déjà de
même. Et ça fait 6 ans qu'il est sur une liste pour avoir un médecin de famille. Il a 36 ans et il a dû passer 2 heures sur Internet et 2 heures au téléphone pour un rendez-vous. rendez-vous d'ici une semaine pour renouveler une prescription qui était bien simple.
Incroyable,
hein? Éric dit, un des problèmes que c'est que le gouvernement ne veut pas de médecin de famille à temps partiel. Mais en fait, le médecin de famille est un travailleur autonome, là. Il est payé avec la carte d'assurance maladie. Si vous allez le voir, il y a un certain montant qui est octroyé, là. C'est pas le gouvernement qui paye le médecin de famille. Ben oui, mais c'est à l'acte. Fait que si vous y allez pas, vous êtes pas payant pour ce médecin-là.
Non,
c'est la raison pour laquelle il vous floche.
Ouais.
Parce que lui, il se dit, ben moi, je veux faire 40 heures semaine, 5 jours sur 7 par semaine, je peux prendre 2000 patients. Mais si vous y allez pas, il va prendre quelqu'un qui va le voir 2 puis 3 fois par année, c'est sûr.
Mais tu changeras pas tes habitudes en étant coercitif dans la vie. Ça veut dire que, mettons, tu arrives au médecin de famille, tu vas dire, ben là, excuse-moi, tu vas faire plus de temps. Ça fonctionnera pas comme ça. C'est plutôt en administration que tu devrais changer les choses. Soit, voici ceux qui viennent de façon régulière, voici ceux qui viennent de façon sporadique, mettons. Fait qu'on on va ajouter des patients dans la banque du dit médecin pour ces raisons-là. On devrait plutôt travailler de cette manière-là parce que ça va s'en venir. Puis on en demande aussi aux médecins de famille d'en prendre plus parce que la génération a changé. Plus comme ma médecin de famille, une dame que j'adore, qui a dans 70, fin 70, qui travaille encore parce qu'elle est passionnée, puis elle a perdu son mari, puis elle se dit, ben c'est encore ça qui me fait vivre, tu sais, pas financièrement, mais pour le plaisir de. Ça, je suis sûre que le gouvernement irait plutôt avec une solution coercitive, là.
Mais dans un monde où, là, on nous dit qu'on n'a pas le choix, puis on commence à regarder des solutions drastiques pour changer fondamentalement le système de santé, on est bien dans le même gouvernement qui joue au dragon avec l'argent des contribuables dans des investissements qui ne rapportent pas. On est dans le même gouvernement qui continue de faire des voyages qui nous coûtent les yeux de la tête à la grandeur de la planète au nom de la francophonie. On est dans le même gouvernement qui rénove des châteaux à Paris avec l'argent des contribuables. On est dans le même gouvernement qui nous cache des factures de cartes de crédit qui sont loadées dans des hôtels à Dubaï, aux Émirats arabes. C'est-tu moins où, avant de couper en santé, on est capable de trouver 2-3 spots, là, où ce que on devrait avoir un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de discipline? On est en train de regarder pour changer fondamentalement un système qui, oui, ne fonctionne pas.
Mais traite tout le monde de façon égale.
Et là, on va le rendre misérable. Ça va nous décoter socialement à grandeur de la planète. Puis on pense pas arrêter nos dépenses complètement folles dans des projets, des conventions, puis des affaires de valises, puis de flûtes de champagne qui ramènent fuck all à personne. C'est incroyable le manque de conséquences de ces gens-là.
Ça crée des tensions, là. Ça crée tellement de tensions, de l'inquiétude. Combien de gens vont appeler? Tu parles souvent, toi, des personnes un petit peu plus âgées avec le guichet dans Astérix et Obélix. Là, t'es là, c'est du sans rendez-vous. Finalement, il fallait que tu prennes un rendez-vous. Là, t'appelles à tel... Tu sais, on reçoit des textos. Je vous écoute, puis vous me pompez. Une dame...
Désolé.
Tu sais, qui dit, mon fils et moi...
C'est vendredi. J'aimerais ça qu'on soit de bonne humeur, toute la gang. Je suis vraiment désolé.
Mon fils et moi avons attendu 3 ans pour avoir un médecin de famille. On a le même. Ça se fera peut-être pas, mais si c'est leur intention de donner un médecin aux plus malades, mais juste le fait d'y avoir pensé, ben pour moi, la CAQ, c'est fini. J'attendrai même pas qu'ils le mettent en action pour me dire que la CAQ, c'est fini. J'en reviens pas. Vos
juste
propos viennent me chercher.
Juste le fait qu'ils pensent, effectivement, ça n'a juste pas de bon sens. Mais Denis, moi, j'aime ça apporter des solutions, même si c'est pas les solutions qui seront privilégiées, là. Puis je sais que je suis peut-être un peu plus à droite économique. Que le reste de la station. Mais pourquoi ne pas mettre au-dessus de ces grands décideurs-là qui travaillent pour le public, dans chaque hôpital, un gestionnaire privé qui va être en compétition avec les autres gestionnaires privés? Pourquoi ne pas l'essayer, Denis? Ça fonctionne bien, le privé. Puis ce qu'ils veulent faire, ce que Christian Dubé veut faire, c'est de tuer le privé pour que tout le monde qui sont au privé retourne au public. Mais ces gens-là ne sont pas en compétition les uns envers les autres.
Va-t-il falloir que l'actualité fasse un palmarès des hôpitaux comme ils font un palmarès des écoles?
Exact.
Tu sais, je sais que ça a été décrié, le palmarès des écoles, mais je te garantis qu'une école qui se ramasse dernière, l'année d'après, elle l'est plus. Pourquoi? Parce que ça pique l'orgueil un peu, puis ça relance... peut-être un genre de compétition où ça force certaines écoles à changer des choses, à améliorer des choses.
Mais c'est que ça va être le top des plus médiocres, mais dans les médiocres.
Ouais. Mais en mettant des gestionnaires, <C'est ça. rire> en mettant des gestionnaires privés en haut, Denis, puis en dessous, c'est tout le public, là. Mais juste des gestionnaires privés en haut qui vont prendre des décisions, qui vont avoir une obligation de performance, puis qui vont être comparés aux autres. Si ça ne fonctionne pas, s'ils font partie des médiocres, là, tu peux les tasser puis les sacrer dehors. Mais... Tu ne peux pas faire ça avec des hauts fonctionnaires. Brigitte, c'est Bourdon, Gertrude Bourdon. Vous vous souvenez de Gertrude Bourg?
Non. Oui. Non.
Elle a été candidate pour la coalition Avenir Québec. Elle voulait être ministre de la Santé et tout ça. Elle était la top gestionnaire d'un hôpital à Québec et elle était vue comme étant une top gun de la santé. OK?
Mm-hmm.
Elle a dû lâcher sa job de top gun de l'hôpital pour s'en aller en politique. Ça n'a pas fonctionné pour elle. Elle n'a pas été élue, mais elle s'est aperçue que le poste qu'elle occupait n'avait pas encore été remplacé. Puis il y avait un appel d'offres pour tout le monde, à savoir hey, si vous avez les skills, venez avec nous autres, postulez, puis on va choisir lequel est le meilleur pour diriger notre hôpital.
Mais tu sais, ça reste une femme qui a travaillé comme infirmière au CHUL pendant de nombreuses années, qui a été directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Québec. Puis tu sais, je peux continuer comme ça, un bon pédigree. Là.
Fait que là, elle est là depuis des années, alors sa job, ben tu sais quoi? Ils l'ont même pas invité comme candidat potentiel.
À reprendre sa job.
À reprendre sa propre job qu'elle avait laissée. Fallait-tu qu'il soit content qu'elle parte? Fallait-tu qu'il soit content qu'elle parte? Fait qu'avec des gestionnaires privés, tu peux les sacrer dehors, puis tu peux leur dire, bien, plus vous êtes performant, plus on va vous donner de l'argent.
Mmh. Mais le problème que tu as, et c'est toujours le même, c'est que la machine maintenant, au-delà des gouvernements puis des ministres qui se succèdent, elle est rendue invincible parce que les syndicats sont trop forts, puis il n'y a personne qui est capable de les casser d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas amener un esprit de compétition dans les hôpitaux. Tous les syndicats vont te barrer à la seconde près. Puis c'est pour ça qu'il n'y a rien qui change. Je comprends la madame qui est pompée, qui dit, moi, la CAQ, c'est terminé. J'ai des petites nouvelles pour elle. Envoie Solidaire, envoie les péquistes, envoie les libéraux, envoie Éric Duhaime. Il n'y a rien qui va changer. La machine est rendue trop forte. Elle est hors de contrôle. Elle a trop de pouvoir. Puis quand quelqu'un arrive avec des idées, bien les fonctionnaires, puis les décideurs, puis les syndicats qui sont là depuis des années, ils se disent hey, garde le blanc à bec. Dans 6 mois, il fait partie de sa job.
Mais on peut-tu repartir à un moment donné avec une feuille blanche? Parce que le modèle santé québécois, qui est un modèle, n'a jamais été repris ailleurs.
Personnellement, j'aime mieux casser du syndicat que d'arracher des médecins de famille à des familles qui en ont besoin.
Les médecins de famille ne doivent même pas apprécier.
Ben non.
Ça doit être encore plus paniquant pour eux parce qu'ils connaissent justement leurs patients. Pour beaucoup, là, c'est des gens extrêmement humains. Ils connaissent leurs patients, connaissent les inquiétudes de leurs patients qui les suivent depuis des années, que ce soit au mental, oublions pas, là, tout ce qui est santé mentale en médecine familiale,
c'est
en passant,
affaire, hein?
C'est géré. Là, on parle beaucoup de mots physiques, mais les mots mentaux, qui est, je pense, l'hérésie du siècle là, en ce moment, puis en plus, chez nos jeunes, avec tout ce qui est l'anxiété et autres, sont gérés par les médecins de famille pour la grande part des citoyens qui en ont besoin.
Puis, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont comme responsables de leur médicamentation, de la faire renouveler et ainsi de suite. Il y a un paquet de suivis qui se perdent parce que le système craque de partout. Puis après ça, on se demande pourquoi à Lac-Saint-Charles, à un moment donné, il y en a un qui commence à se prendre pour l'incroyable Hulk. Pourquoi à Saint-Roch, il y a du monde qui se parle tout seul en faisant l'hélicoptère avec les deux bras.
Pourquoi t'as tort sur l'autoroute en Beauce à un moment donné qui attaque des voitures?
C'est ce qui arrive. C'est un des symptômes de ce système-là qui craque de partout et qui n'est pas capable de faire des suivis.
Des gens qui nous écrivent.
Hey, c'est le fun. Hein?
Qui ont travaillé en laboratoire, qui disent aussi je ne suis pas sûr pour les médecins de famille qui te flushent parce que tu n'es pas payant, mais ça vous appartient. Le reste qui m'appartient, c'est qu'il a été technicien en laboratoire puis il dit il te flushait aussi parce que tu l'obliges à travailler à l'aveuglette. Il a besoin d'avoir suivi des analyses pour détecter un brusque changement ou autre, puis ils n'ont même pas ces suivis-là.
J'avais fait un voyage il y a de ça quelques années. Eh bien, en fait, je pense que c'était avant de rentrer à Boulevard, parce que j'avais raconté ça dans les premières semaines, où j'ai rencontré un genre de super infirmier. Là. C'était dans le début des super infirmiers. Puis lui, il travaillait dans un hôpital à Québec. Puis il y avait une quinzaine de médecins qui étaient autour de lui. Il était dans un département particulier. Puis lui, c'est un super infirmier, fait qu'il n'est pas payé à l'acte. Il est payé à l'heure ou à la semaine ou à l'année, là, mais il est payé. Ce qui faisait en sorte que les gens qui se présentaient à l'hôpital avec la carte d'assurance maladie, ben c'était pas chargé comme ça devait être chargé aux médecins. Mais les médecins ont fait une rencontre puis ils ont demandé à ce que ses actes à lui, qui lui revenaient pas dans les poches, ben soient redistribués à tous les médecins qui étaient autour parce qu'eux jugeaient qu'ils prenaient leurs patients.
Ouais.
Fait que quand les gens me disent « Non, il n'y a pas d'argent en jeu là-dedans », Les médecins sont des hommes d'affaires et des femmes d'affaires.
Il y en a qui travaillent plus pour le côté humain, puis il y en a qui, malheureusement, selon leurs histoires personnelles, travaillent plus pour l'argent.
Là, je pense que la plupart font les deux.
Ouais, c'est comme en radio. Il y en a qui travaillent pour le fun, l'humain, le brainstorm complet qu'on fait dans le pit stop, puis il y en a qui travaillent pour l'argent. Yannick,
il y a une paye aussi.
Oui, c'est ça, des bouteilles. Je fais des blagues. le côté maladie mentale, santé mentale a vraiment touché du monde. Puis on dit, OK, ça ajoute un point. Comment on va évaluer qui est plus malade en ce qui a trait aux maladies mentales? Ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Puis la santé mentale de la population, ça va à la dérive alors qu'on dépense des millions à sensibiliser pour aller chercher de l'aide.
C'est d'autres affaires qu'on ne pourra pas diagnostiquer la journée où on réserve exclusivement les médecins de famille à des problèmes déjà diagnostiqués. Une problématique de santé mentale, tu n'es pas capable d'identifier ça en l'espace de deux jours. Tu sais, dans l'histoire du lac Saint-Charles, il y a quelqu'un qui a côtoyé l'individu qui s'est désorganisé pendant 4 ans. Elle a été sa copine. Elle ne savait pas qu'il y avait un problème de santé mentale. Il y a des gens qui sont capables de dissimuler ça près de moi. Il y a des gens qui ont vécu avec des gens qui avaient une problématique grave de santé mentale puis qui ne s'en sont pas rendus compte à temps et qui ne s'en sont pas rendus compte le temps d'un couple ou le temps d'une vie. Imagine si ces gens-là vont jamais consulter, si ces gens-là n'ont pas accès à un examen médical, n'ont pas accès à un médecin de famille, c'est le monde à l'envers. Oui.
Denis, on termine ça sur une note d'humour, cher ami.
Oui, ferait du bien.
Parce qu'on s'en va en congé de 3 jours. Yeah. On a posé la question à Geneviève Guilbeault à savoir, bon, si jamais il y a un troisième lien autoroutier qui est décidé et mis en place, puis il y a un nouveau gouvernement qui rentre. Mettons, je dis ça, je dis rien, là, mais Paul Saint-Pierre Plamondon avec le Parti québécois. Est-ce que le gouvernement pourrait renverser ce que la CAQ avait mis en place en raison du fait qu'ils ont signé des ententes avec des entreprises? Sa réponse à elle, c'est non.
Ça serait irréversible.
Écoute, la CAQ s'est réversée elle-même à plusieurs reprises, convaincue qu'un nouveau gouvernement peut faire exactement la même chose.
T'as brisé tous tes arbres sur le terrain en fin de semaine? Tu fermes
l'extérieur?
Écoute, j'ai du hockey en fin de semaine. Il y a du ramassage de feuilles à faire.
J'ai passé la tondeuse la semaine passée.
Une trempe. Ah oui. Oui, oui, ça, c'est le fun.
OK, c'est ça. J'avais vu le sourire jusqu'aux oreilles de Yannick en disant « J'ai posé à tondeuse ses feuilles. »
J'ai hâte que ça sèche, là, oui.
Voyons le fun. C'est le fun.
Ben, c'est vraiment le fun.
Ben, plus le fun que des ramassés.
Ben oui, c'est ça. Tu sais, il y en a à côté de chez nous là, qui prennent des gros sacs puis qui mettent des feuilles dedans puis ils envoient ça au vidange.
Mais des fois, ils font des citrouilles d'Halloween avec. Des gros fantômes.
Ouais, il y a ça. Mais moi, je passe la tondeuse là-dessus. J'étais un green, moi. J'essaie le plus possible d'être pour l'environnement.
C'est pas juste pour le plaisir de déchiqueter des feuilles puis parce qu'on haït se ramasser.
Ça, c'est green,
là.
Green.
Oui, oui, oui. On est de grands écologistes.
Ouais, c'est ça. Puis en même temps, se pencher à ramasser des feuilles, c'est plate. Fait que
c'est ça.
La tondeuse.
Mais il y a des machines qu'ils aspirent, puis là, tu presses un autre bouton puis ça déchiquette.
Ouais.
Ça, j'avais déjà fait ça. C'était le fun.
C'est long, par exemple. Ça t'en prend une bonne. Ça te prend une bonne rallonge aussi, à moins d'en prendre une au gaz.
Ou il y en a maintenant des électriques, mais ça, toi, tu étais green, tu pourrais t'acheter ça?
Non, mais ma tondeuse est à essence, mais je ramasse jamais les feuilles. À part au printemps, pour éloigner les fourmis. Là.
Puis mettons que tu les laisses là, si tu...
Ben, c'est parce que ça va scraper ton gazon.
Ça te fera pas une belle pâte au printemps, là, non.
Fait que tu fais juste les déchiqueter, puis après ça, ben ça en va avec le reste. Là. La terre se nourrit de ça.
C'est le cercle de la vie!
T'auras appris des choses ici parce
que je pense
avant ton départ pour marier un bel Italien.
Tout est beau sans Marceau. C'est ça que je veux dire dans les rues de l'Italie.
Midi 31, on vient. Boulevard 102.1.